OK, troisième heure, on va évidemment parler à notre ami Christian Page qui va partager avec nous cette vision qu'a Elon Musk, le père de la Tesla, notamment, sa vision qu'il a de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, je trouve pas ça trop rassurant. Parce que lui, il est convaincu qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle pourrait finir par dominer l'intelligence humaine, là. Il va être question d'eau sur Mars également. C'est ce dont Christian va nous entretenir. On va parler également de la rivalité entre Mariah Carey et Céline Dion. Mariah Carey a fait une petite sortie, là. Petite vacherie contre notre Céline, là. Hey, wow! On va pas laisser faire ça. On va vous parler un petit peu aussi de rats. Je suis désolé de vous le présenter comme ça, là. Mais il y a des travaux sur P9. Et puis là, il y a une infestation de rats dans ce secteur-là. Puis évidemment, nous, on va se mettre en mode solution avec notre dératiseur préféré, Harold, qui va être là dans l'émission. Mais d'abord, aucun rapport avec Luc Lavoie. Oh, ça, c'est chier.
C'est quoi, le rat Lavoie? C'est ça, la fin?
C'est chier. Non, j'ai dit aucun rapport. Voyons donc, moi, Luc. Fais-toi pas des images de mal.
J'ai des moustaches de rat, par contre. Vas-y.
alors, écoute bien. Là, tu vas nous faire un petit tour de la COVID. Oui. Puis après ça, on va parler un petit peu de la ministre Sylvie Damour, la ministre des Affaires autochtones, qui vit des moments difficiles en ce qui me concerne. En tout cas, j'ai hâte de voir ton analyse. Mais d'abord, un petit tour de table, un petit tour d'horizon, dis-je.
OK. Alors, la pandémie a fait jusqu'ici 1,018,634 morts dans le monde. Plus de 34,041,560 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 23,506,700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Dans les dernières 24 heures, on a recensé 6,206 décès et 304,965 nouveaux cas. Pense à ça, 304,965 nouveaux cas en 24 heures.
Ça, c'est ce qui est rapporté. Évidemment, ouais. Tu as des pays qui n'ont même pas de système pour rapporter.
Bon. C'est toujours un chiffre qui est en bas.
Oui, c'est sûr. En bas. Pas mal en bas même. Ouais. Okay.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans les dernières 24 heures sont l'Inde avec 1181 morts, le Brésil avec 1031 et les États-Unis avec 964. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 206,959 décès pour 7,233,946 cas recensés. Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui dénombre le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 98 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique, la Bolivie, l'Espagne et le Brésil. En Espagne, il est désormais interdit aux habitants de Madrid d'entrer ou de sortir de la ville, sauf pour aller travailler, aller chez le médecin ou amener les enfants à l'école. Les autorités municipales de Madrid s'étaient opposées à cette décision, mais un décret gouvernemental l'impose quand même. En Grèce, environ 1500 étudiants ont manifesté ce matin à Athènes pour réclamer de meilleures conditions d'enseignement pendant la pandémie. La police a dû intervenir et utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les incidents se sont déroulés devant le Parlement, dans le centre-ville, alors qu'un groupe de jeunes encagoulés a jeté des engins incendiaires et des fusées contre les forces anti-émeutes qui encadraient la manifestation.
Ça
brasse.
Comme on dit en bon français québécois, ça se morpionne aussi à d'autres endroits, ouais. C'est ça.
Il y a deux slogans que les étudiants lançaient. Non aux cages, donc se faire enfermer, et on veut plus d'argent pour l'enseignement. À l'heure actuelle, de nombreux établissements scolaires à travers le pays sont occupés par des étudiants empêchant l'enseignement. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires britanniques ont reconnu que le taux d'infection n'est pas sous contrôle. Je cite les propos, « Les choses vont dans la mauvaise direction », a averti le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance. Pays le plus touché en Europe avec 42,143 morts, le Royaume-Uni a enregistré 7,108 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, portant à 453,264 le nombre total de cas positifs. Et en toute dernière heure, Paris et sa proche banlieue pourraient passer lundi en zone d'alerte maximale si la progression de l'épidémie s'y confirme, a déclaré ce midi le ministre français de la Santé, Olivier Véran.
Ça va pas bien en France, hein? Non. Ils sont en train de perdre le contrôle, hein?
Un tel classement supposera que les habitants de Paris et de sa banlieue réduisent temporairement leurs interactions sociales de manière radicale. Plus de fêtes de famille, plus de soirées, fermeture totale des bars. Donc, on revient au confinement très, très strict du début de la pandémie. Alors, ça fait à peu près le tour. J'allais ajouter peut-être qu'en Amérique latine, on assiste à un boom du commerce électronique. Plus de 10 millions de Latino-Américains qui n'avaient jamais fait d'achat en ligne le font désormais. Donc, ça change un peu partout. Et moi, ce qui me frappe, Bernard, c'est, mon Dieu, que les situations se ressemblent d'une place à l'autre.
Hein? Ben oui, puis quand je regarde ce qui est en train de se passer en Europe, je me dis, si on suit le même pattern qu'au printemps, ce qui se passe en Europe va se passer chez nous, bateau.
C'est clair, c'est absolument clair. Et la deuxième vague, la deuxième vague s'est enclenchée plus rapidement en Europe qu'ici. Mmh. Alors, on peut voir ce qui se passe là-bas et un peu anticiper.
Voilà. OK. Alors, on change de sujet maintenant. On va parler de la ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour, évidemment, dans la foulée de ce drame épouvantable cette dame atikamekw, Joyce Echaquan, donc, qui est décédée à l'hôpital de Joliette. Et juste pour bien mettre la table, Luc, elle décède et dans les heures qui suivent, hier matin donc, la ministre des Affaires autochtones émet un communiqué qui n'a aucun rapport avec le décès de Joyce Echaquan, communiqué dans lequel la ministre donc des Affaires autochtones, Mme Damour, se félicite des progrès réalisés depuis la publication du rapport de la commission Vien qui portait ses affaires autochtones. Pas un mot sur Joyce Echaquan. Et là, réalisant leur erreur, puis les oppositions, évidemment, se sont mises de la partie pour dire « ça a-tu pas de bon sens qu'une ministre n'exprime pas ses condoléances, n'exprime pas sa peine et tout ça ». Ils sont obligés d'émettre un deuxième communiqué pour dire
elle avait de la peine.
Ah oui, c'est ça. On offre nos condoléances, etc., etc. Alors là, évidemment, il y a Mme Anglade, la chef libérale, qui est sortie hier pour dire « ça n'a pas de sacré bon sens, cette femme-là, Mme Damour, ne mérite plus d'être ministre des Affaires autochtones ». Et aujourd'hui, Mme Damour, elle était à la période des questions, elle s'est faite questionner par les députés d'opposition. Petit extrait.
C'est évident, à l'hôpital de Joliette, il y a eu un problème. Je veux savoir si le gouvernement a fait quoi depuis 2018 de régler les enjeux à l'hôpital de Joliette.
Madame la Présidente, je veux vous rassurer, j'en ai fait plus en 2 ans que 15 ans de Parti libéral. Puis il faudrait qu'il prenne un petit 5 à 7 avec son père pour vérifier ce que je dis. Les rapports, le rapport Vien n'est pas le premier rapport. Le rapport Vien n'est pas le premier rapport qui a été déposé et rien n'a été fait depuis ce temps. Mon bilan, c'est que je suis présente puis que je travaille avec les Autochtones et pour les Autochtones. Voilà, Madame la Présidente.
Alors, juste pour vous situer, le député qui parlait avec un petit accent anglais, c'est Greg Kelly, c'est un député libéral.
C'est le fils de Jeff Kelly.
Et Jeff Kelly a été ministre des Affaires autochtones pendant de nombreuses années dans les gouvernements de M. Charest et de M. Couillard. Donc, Sylvie Damour, elle se lève debout puis a dit à Greg Kelly, « Moi, j'en ai fait plus en 2 ans que ton père, dans le fond, en a fait en 15. Puis si tu veux savoir de quoi je parle, va t'asseoir avec ton père et va te l'expliquer. » Ce qui est un peu baveux, honnêtement, Paul. Honnêtement, Luc, excuse-moi.
Très baveux. Très, très baveux et très, très amateur, surtout.
Il me semble qu'elle n'est pas dans une position pour faire l'arrogante, là. Hein?
Ouais, surtout que le rapport Vien pointait spécifiquement dans la direction des Autochtones qui ont peur d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils ont l'impression qu'il y a du racisme qui se pratique là. Alors, c'était clair comme de l'eau troche dans le rapport Vien. Alors, je sais pas c'est quoi qu'elle a appliqué comme mesure depuis 2 ans. Elle en fait toute une longue liste, mais elle n'a pas touché à ce domaine-là. Moi, ce que ça m'amène comme commentaire, Bernard, c'est que le gouvernement de M. Legault est composé d'un groupe, j'appellerais le noyau dur du gouvernement. Il y a beaucoup de compétences dans ça. Hein? Fitzgibbon, Éric Girard, pouvait en nommer Christian Guilbeault, Dubé, Geneviève Guilbeault.
Sonia Lebel, ouais.
Ouais. Mm-hmm. Alors, il y a ce groupe-là, là. Puis en dehors du groupe en question, c'est comme on dit d'une équipe de hockey, ça manque de profondeur un peu. Et ce que j'ai entendu, Madame la ministre des Affaires autochtones, ce que j'ai entendu d'elle, c'est qu'elle me rappelait plutôt la ministre de l'Environnement qui a fait à peu près 3-4 mois là, au début du gouvernement.
Marie-Chantal Chassé.
C'est ça, tu nommes des ministres, dans des portefeuilles en espérant qu'il n'y aura pas de crise qui va te sauter au visage, puis tu prends tes meilleurs joueurs, tu les mets dans les endroits stratégiques, puis tout à coup, bang, il y a une crise qui éclate dans le monde autochtone, puis c'est une femme qui n'a pas, à mon avis, l'expérience. Je sais pas quoi d'autre dire, là. Je veux pas être méchant, mais disons qu'elle elle paraît pas bien dans ça.
Puis, ce qui était cruel hier, c'était la comparaison entre elle et Yann Lafrenière, qui lui a sorti, c'est un député de la CAQ. Il est sorti, il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Il était même dans notre émission parce qu'ils nous ont texté. Il y a quelqu'un de la CAQ qui m'a texté. Il m'a dit, Yann Lafrenière, ça le touche beaucoup ce qui s'est passé. Il aimerait ça venir te le dire dans l'émission. Je dis, ben, écoute, OK, on va le prendre. Il est venu dans l'émission. Puis honnêtement, Luc, Yann Lafrenière avait plus l'air d'un ministre des Affaires autochtones hier que la ministre des Affaires autochtones.
J'espère qu'un jour il va être nommé Yann comme ministre, parce que je pense que depuis le début de ce gouvernement, depuis 2 ans, lui, il est pas ministre, mais il préside une commission qui se promène un peu partout au Québec.
Sur l'exploitation sexuelle des enfants, là. Ouais, ouais.
Il fait un excellent travail, c'est un gars professionnel, c'est un bon communicateur. Enfin, au premier ministre de décider ce qu'il va choisir pour son conseil des ministres.
Mais tu as raison, il a les qualités, les compétences pour être ministre.
Moi, je pense que oui. Ah, quant à Mme Damour, il a fallu que M. Legault se lève pour la défendre aujourd'hui, hein, parce que là, elle se faisait brasser pas à peu près. Puis, il y avait effectivement quelque chose d'un peu, de quasi vexant. Puis, ce pétage de bretelles, j'en ai fait plus en 2 ans que les libéraux en 15 ans. Mais attends une minute, là, Mme Damour, attends une seconde, là, on pourrait s'en reparler.
Ouais. OK. Fait que bref, si tu devais miser sur sa carrière politique, tu miserais pas beaucoup d'argent sur sa carrière ministérielle.
Non, ni sur ses ambitions futures.
OK. Il nous reste 2 minutes. Je veux qu'on revienne Luc, je veux qu'on revienne sur les suites du débat entre Trump et Biden aux États-Unis, parce que là, il y a des républicains qui commencent à être un petit peu nerveux. Là.
Qui commencent à être très nerveux. Mais ils ont tellement peur du côté vengeur de Trump que quand tu lis New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, ce que tu découvres, c'est oui, il y a par exemple la sénatrice Collins de l'État du Maine qui est toujours un peu en opposition à Trump, qui s'est ouvertement opposée, quelques autres qui se sont prononcés, mais généralement ce sont des sources anonymes qu'on nous décrit comme étant des gens qui sont très seniors dans l'organisation.
Mais dis-nous pourquoi ils sont nerveux, Luc. Dis-nous pourquoi ils sont nerveux.
Ils sont nerveux parce que Trump est en train de perdre l'élection. Vraiment, si on veut résumer le tout, là, c'est qu'ils pensaient que les quelques points, ils sont à 7 points l'un de l'autre d'après la moyenne de RCP. Là.
Oui.
Alors, ils pensaient qu'avec le débat, il allait réouvrir quelque chose puis que ça allait lui amener d'autres votes. C'est pas ça qui est arrivé. Il a fait peur aux enfants, il a fait peur au monde, il a fait peur à tout le monde, il a inclus à son propre parti.
Et le fait qu'il
pires performances de l'histoire politique.
Et le fait qu'il n'ait pas pris ses distances de l'extrême droite.
C'est scandaleux.
C'est ça qui inquiète certains républicains, là. Ils craignent que, dans le fond, t'es un républicain, le chef des républicains ne prend pas ses distances avec les racistes d'extrême droite. Ben, toi, t'es obligé de le défendre. Et il y en a des républicains qui n'ont pas le goût de le défendre et qui ont peur que ça lui coûte des votes.
Même que le sénateur noir, le sénateur Scott, qui est le seul républicain noir, a essayé de dire, il y a peut-être, il a balbutié, c'était pas clair. Puis là, ils ont dit, non, il a bien dit ces mots-là, M. Scott. Ben, il dit, je suppose que s'il dit ce qu'il pense, tu sais, il le disait avec un air de dépit. Les républicains deviennent de plus en plus nerveux. N'oublions pas qu'il y a un tiers du Sénat qui va être renouvelé. N'oublions pas que la Chambre des représentants va être renouvelée. Et là, s'ils se voient perdre les trois, là, la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat, ils pourraient être dans le trouble pour pas mal d'années.
Oui. Mais honnêtement, ils auront couru après. Parce que moi, tous ces républicains qui sont restés loyaux à Trump parce qu'ils avaient peur de Trump, s'ils perdent leur élection à cause de Trump, c'est comme justice est rendue, tant qu'à moi.
Ouais. Hein? Puis franchement, là, c'est un grand parti. C'est le parti de Abraham Lincoln, c'est le parti de Dwight D. Eisenhower, c'est le parti de Ronald Reagan. C'est pas le parti de Trump, à moins qu'il le réélise puis qu'on continue sur la même voie.
OK, Luc, on se reparle un peu plus tard.
À tantôt.
À tantôt. Après la pause, on va parler donc de ces rats qui sortent d'un peu partout autour de Pinneuf, là. C'est quand même une grosse artère à Montréal. On va essayer de comprendre, là, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on peut mener la lutte contre cette armée de rats qui fait surface. C'est Harold Levé. On fait toujours appel à lui. C'est un bon vulgarisateur. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Très crédible. Après la pause.